Katja Sénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines, nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars à bord du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre salle des machines. Aujourd'hui, nous aurons la chance de parler de Fernando Pessoa et des autres personnages qui peuplent ce grand œuvre qu'est le Manifeste incertain de Frédéric Pajac, qui se clôt avec son 9e volume. Notre caillou dans les poches nous permettra de retrouver le pharaon de Saint-Germain-des-Prés, l'écrivain égyptien francophone Albert Kosri. J'aurai ensuite la joie de m'entretenir avec Rachid Benzine, essayiste islamologue passé au roman avec « Dans les yeux du ciel ». Et pour conclure, c'est Ilana Holguin Teodorescu, autrice de « Aller avec la chance », qui lancera son message à la salle des machines.
Bury me in a nameless grave. I came from God, the world to save. I brought them wisdom from above, worship and liberty and love. They slew me, for I did disparage therefore religion, law, and marriage. So be my grave without a name, that earth may swallow up my shame.
Soyez le bienvenu dans la salle des machines, Frédéric Pajac. Avez-vous reconnu les élucubrations du mage sataniste Aleister Crowley qui sera si important pour Fernando Pessoa à la fin de sa vie?
Oui, j'avais reconnu sa voix. Oui, je m'étais bien dit que ça devait être Crowley.
Oui, effectivement. Et donc, il fait une apparition dans ce volume du Manifeste incertain consacré à Fernando Pessoa.
Oui, parce que ce qu'on sait, mais c'est que Pessoa était très féru de mysticisme, et notamment, il était rosicrucien, enfin, proche des Rosicruciens, je crois qu'il l'était, et puis proche de la franc-maçonnerie, et il était surtout sébastianiste, et il était aussi intéressé par la théosophie, par l'astrologie. Il était d'ailleurs un astrologue patenté, et il aurait presque pu vivre de ça, d'ailleurs, de l'astrologie. Et c'est en faisant le thème du mage Crowley. Enfin, si vous voulez, le mage Crowley avait publié une brochure où il s'était présenté, il avait donné son thème astrologique, et puis Pessoa s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dedans, et donc il est rentré en contact avec lui, et Crowley a été tout à fait subjugué par la précision de Pessoa, et donc ils ont cherché à se rencontrer.
Frédéric Pajac, vous avez au fil du temps inventé un genre littéraire, un style de livres dessinés au noir, dont les premiers ont été publiés aux presses universitaires de France, Nietzsche et son père, l'extraordinaire Mélancolie. Et à partir de 2012, vous vous lancez dans ce Manifeste incertain aux éditions Noir sur Blanc, dont le 9e et malheureusement dernier volume, apparemment, paraît aujourd'hui et s'intitule « Avec Pessoa ». Donc les personnages du Manifeste incertain, ce sont dans le premier volume Walter Benjamin, ensuite Ezra Pound, Gobineau, Van Gogh, Emily Dickinson, Marina Tsvetaeva, et j'en passe. Et c'est un mélange aussi de vos souvenirs de voyage, des éléments biographiques, aussi des petits récits politiques. Et il y a quelque chose d'assez beau et déjà paradoxal dans le titre, hein, qui ouvre tout un horizon. Qu'est-ce que c'est qu'un manifeste incertain? Par définition, on aurait envie de dire qu'un manifeste serait tout sauf incertain.
Ben justement, c'est un oxymore. Comme tous les oxymores, ça, on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Pour moi, c'est, si vous voulez, tous mes livres sont, les héros de mes livres sont les sentiments. Le premier livre que j'ai fait, qui a eu un certain écho, c'était L'immense solitude. Donc le héros, c'était la solitude, et non pas seulement Nietzsche et Pavèze. Après Mélancolie, comme vous l'avez cité, donc le chagrin d'amour. Et là, en l'occurrence, le héros, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, on peut la prendre sous, un peu comme la mélancolie. Ça peut être un stimulant, et ça peut être aussi une pathologie. L'incertitude, c'est aussi, ça peut être l'inquiétude, ça peut être quelque chose d'angoissant. Pour moi, évidemment, ça l'est pas. Et ce que j'essaye de faire, ce que j'ai essayé de faire en 9 volumes, c'est d'évoquer ce sentiment et de montrer la complexité de ce sentiment.
Est-ce qu'au départ du projet, vous saviez déjà que ce serait limité dans le temps et qu'il y aurait 9 volumes ?
Non, au départ, je voulais faire un livre sans fin. Et puis, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit que finalement, ça me permettait de me concentrer, de faire 9 volumes. C'est un chiffre tout à fait arbitraire, mais ça me permettait de me concentrer sur c'est un espace, en fait, 9 volumes. Mais c'est un seul et même livre, hein. C'est pas 9 livres différents, c'est un seul et même livre qui a un début et une fin.
Et vous reprenez un peu des personnages, un peu des laissés pour compte, ou certains d'entre eux, en tout cas, assez largement oubliés par la postérité, comme par exemple le comte de Gobineau, dont on ne parle pas forcément tous les jours.
Alors, je crois que j'évoque surtout le destin de personnages qui ont été écartés de leur vivant, comme Van Gogh, comme Marina Tsvetaeva, comme Emily Dickinson, comme Pessoa, dont l'œuvre n'a pas été connue de leur vivant, mais que la postérité a vengé. Mais c'est pas systématique, effectivement, puisque le comte, enfin, qui n'était pas comte du tout, le Arthur Gobineau, qui n'était pas de Gobineau, mais Arthur Gobineau, qui est un personnage tout à fait paradoxal, excessif, qui ne mérite absolument pas la réputation d'être un ancêtre du nazisme ou un raciste ou etc. Contrairement à au titre malheureux de son livre, Essai sur l'inégalité des races humaines, qui est évidemment un titre qui résonne pour nous de façon très catégorique. Mais en fait, ce livre ne parle pas du tout de racisme. Mais Gobineau reste quelqu'un, il y a 3 volumes en Pléiade, et reste quelqu'un, un auteur que je trouve assez prodigieux, mais qui n'est pas du tout lu. Et c'est parce qu'il n'est pas lu que les préjugés vont bon train.
Et là, ce dernier, donc, 9e volume du Manifeste incertain, s'intitule « Avec Pessoa ». Et la partie, disons, biographique est consacrée à Fernando Pessoa.
C'est un hasard, c'est un pur hasard, c'était peut-être l'envie d'aller à Lisbonne, et c'est vrai que un certain nombre de villes sont liées à des auteurs, comme par exemple Dublin à Joyce, Trieste à Svevo, Prague à Kafka par exemple, et puis Lisbonne c'est Pessoa, et d'ailleurs quand on arrive à Lisbonne, on sent sa présence, elle est d'ailleurs célébrée un peu partout, et puis... Je connaissais un peu le Portugal, j'avais séjourné à plusieurs reprises depuis plusieurs années, et c'était un pays qui m'était un peu inaccessible. Et j'avais plus envie d'y aller, et tout à coup, sur un coup de tête, je me suis dit, ben, je vais quand même essayer d'y aller hors saison, au mois de février. Et puis là, j'ai vraiment découvert une ville avec pas trop de touristes, et Pessoa s'est imposé à moi, en fait.
Et qu'est-ce qui s'est imposé à vous, alors, dans cette personnalité? Le poète, la multiplication des hétéronymes?
Alors, le poète, évidemment, parce que je l'avais lu assez jeune, du temps où il y avait déjà quelques volumes traduits. Aujourd'hui, on a presque tout traduit. Enfin, la poésie, je dis. Mais, oui, après, j'avais été, évidemment, à l'époque, très frappé par ces hétéronymes, par ce jeu de l'hétéronymie, en fait, cette façon de vivre avec des autres semblables, parce qu'évidemment l'hétéronyme n'est pas un pseudonyme, hein, c'est plus que ça, c'est vraiment un autre soi-même, et Pessoa compte à peu près 80 hétéronymes, donc ce qui est considérable, c'est-à-dire 90 identités différentes qu'il a créées de toutes pièces, avec même un thème astrologique pour chacun, et même dès lors qu'ils écrivent, ils ont chacun un style d'écriture, une façon d'aborder la poésie ou la littérature. Par exemple, les poèmes d'Alvaro de Campos ne ressemblent pas à ceux de Ricardo Reis. Et donc, souvent, j'ai lu beaucoup de choses sur les hétéronymes, et notamment des choses un peu psychiatrisantes ou psychologisantes, comme si c'était une forme de schizophrénie. Moi, je suis pas d'accord. Je crois que c'est une façon de vivre, c'est une façon de se protéger et de soi et des autres.
Et quel est l'hétéronyme dont vous vous sentez le plus proche, ou en tout cas qui vous a le plus passionné?
Alors, je pense que c'est Alvaro de Campos qui est le plus lyrique et le plus fou, en fait. Et d'ailleurs, je réponds dans le manifeste à un texte d'une psychanalyste qui dit que, au fond, les hétéronymes, ils n'ont pas de corps. Mais c'est pas tout à fait exact, parce que Alvaro de Campos a un corps. Et il a le corps de Pessoa, il a vraiment son corps. C'est-à-dire que quand Pessoa rencontre ses disciples, par exemple, ou ses jeunes admirateurs, il se présente comme Alvaro de Campos et il habite totalement Alvaro de Campos, physiquement, au point qu'il devient presque hystérique et que un de ses admirateurs ne le reverra plus jamais parce qu'il était tellement effrayé par ce personnage qui n'était pas l'homme discret, l'employé modèle qu'était Fernando Pessoa. Donc il y a une véritable transformation psychique et physique.
Vous auriez pu dessiner ces hétéronymes, justement, d'essayer de leur donner un visage. Or, vous ne le faites pas.
Bah, j'y ai pas pensé. C'est vrai que c'est... Mais bon, j'aurais inventé des personnages. Donc, est-ce que ça aurait amené quelque chose? Oui, peut-être. Je sais pas comment je les aurais dessinés, en tout cas.
Se manifeste incertain, comme à présent, presque tous vos livres aujourd'hui, en tout cas. Chaque page, pas chaque page, mais presque, est divisée en deux. Un dessin à la plume, au noir, à l'encre, où la lumière vient uniquement de la réserve, du papier blanc, et à côté, le texte. Et il y a un de ces dessins que j'adore, parce que pour moi, il résume assez bien justement l'hétéronymie, ou en tout cas le personnage de Pessoa. C'est dans une rue de Lisbonne, on voit de dos deux personnages marcher, donc à contre-jour, dans le noir, ou dans une lumière qu'on pourrait imaginer lunaire, sur un sol de pavé différent. Et la seule lumière, c'est-à-dire la seule réserve qu'il y a dans le noir au haut de l'image, dessine les épaules de ces deux personnages et le chapeau qu'on reconnaît de Fernando Pessoa. Qui est l'homme qui l'accompagne alors dans cette photo?
Alors moi,
cette photo, vous voyez, je me suis trompé sur ce dessin.
Bah, c'est justement précisément pas une photo, parce que c'est vraiment un dessin inventé. Et je sais même pas si c'est Pessoa. Pour moi, c'est... Vous savez, je dessine 2 mois par an. Je dessine jamais, moi. J'aime pas trop dessiner. Donc, je suis pas un graphomane, ni dans l'écriture, ni dans le dessin. Je fais les choses uniquement pour faire des livres. Et tout ce que j'écris va dans mon livre. Enfin, quand je dis mon livre, c'est le manifeste. Et les dessins, au fond, je les fais souvent dans un état, j'en fais beaucoup par jour, 7, jusqu'à 7, maximum 10 dessins, ce qui est considérable et ce qui est vraiment épuisant, mais qui a l'intérêt de me mettre dans un état d'inconscience, presque de transe, et vraiment d'inconscience. C'est-à-dire que les choses surgissent comme ça sur le papier, et sauf si je décide de copier quelque chose ou si je suis dans la nature et que je vais dessiner des arbres ou la montagne ou la mer. Là, évidemment, je me concentre beaucoup sur ce que je vois. Mais la plupart des dessins sont plutôt des choses qui viennent un peu spontanément, comme ça.
Et qu'est-ce que cette relation signifie pour vous entre le texte et le dessin? Finalement, pourquoi le dessin en plus du texte, ou pourquoi le texte en plus du dessin?
Ben d'abord, c'est deux langages qui m'appartiennent depuis toujours, depuis vraiment mon enfance. Et puis, j'ai cherché longtemps, j'ai trouvé à peu près à 45 ans, comment les concilier, c'est-à-dire, en fait, je croyais toujours qu'il était nécessaire de les concilier, mais en réalité, je pense qu'ils sont irréconciliables. Et donc, je les laisse dans leur hostilité, dans leur incompréhension l'un envers l'autre, et ils cohabitent, au fond, malgré eux. Et c'est comme ça que je ressens ces deux langages, comme des... Je dis souvent, l'écriture, c'est la conscience, et le dessin, c'est l'inconscience.
Mais il... tisse un rapport quand même. Donc comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous écrivez le texte d'abord et ensuite vous placez des dessins, ou est-ce que vous, puisque vous avez déjà tout dessiné apparemment, ou comment est-ce que le texte est lui-même influencé par le dessin?
Oui, des fois le dessin va, enfin, ou l'idée d'un dessin qui va surgir m'oblige à écrire, mais c'est rarement le contraire. C'est rarement le texte. Je fais pas du tout de l'illustration, et surtout pas de la bande dessinée. C'est vraiment quelque chose de très étranger à ces modes d'expression. Et au fond, c'est un peu au montage du livre que les choses se font, un peu comme un film. Et peut-être l'un est la bande son et l'autre la bande d'image. Ils jouent l'un avec l'autre. Et en plus, moi, je peux pas être très directif parce que le lecteur, il fait ce qu'il veut. Des fois, il y a des lecteurs qui regardent d'abord complètement les images, les dessins, et puis d'autres qui lisent d'abord le texte sans regarder. Il y en a qui font les deux, il y en a qui prennent le livre à l'envers. Enfin, chaque lecteur est libre.
On va écouter ce qui pourrait être une des possibles bandes son, en tout cas de ce manifeste incertain.
Transborda de dor, ai, ai, ai. Meu coração sem tristeza. Transborda de dor, ai, ai, ai. Meu coração sem tristeza. Sonhos de mar. Se não tem amargura, que se temeu a fingir. E assim não tem amargura, que se temeu a fingir. Ficção num pão.
Qui chantait un poème de Fernando Pessoa, une danse des peines, Danza de Magos, qui dit ceci: comme une coupe vide, inutile, mais pleine, que personne ne soulève de la table, mon cœur sans tristesse. Donc c'est vraiment cette contradiction qu'il y a aussi chez Pessoa entre la joie, la peine, le plaisir et la douleur. Est-ce que vous connaissiez ce fado?
Non. Non, c'est très beau, ça donne la chair de poule.
C'est absolument magnifique. Le Manifeste incertain, c'est aussi un livre de voyages, de nombreux voyages, et même les vôtres. Vous racontez aussi vos voyages de jeunesse. Et dans ce 9e volume, vous nous emmenez en Algérie et au Sahel, dans un voyage qui aurait pu finir tout à fait tragiquement. Mais par chance, ça n'a pas été le cas.
Bon, en fait, je suis parti dans le Sahara pour me suicider. J'avais 20 ans. J'ai beaucoup d'amis qui avaient, à cette époque, qui avaient la même idée en tête, et qui, certains se sont suicidés à 20 ans. Et j'ai une très mauvais souvenir de toute cette époque, de ce, je dirais entre 18, 19, 20 ans, enfin surtout 19, 20 ans. Et j'ai connu vraiment la solitude et la misère à Paris. Pendant un an, j'ai absolument vu personne. Et je crois que ça a été un déclic pour moi de décider de partir seul dans le Sahara, de traverser le Sahara. Au départ, je devais aller rejoindre des amis, puis finalement, ça s'est pas fait. Et je suis donc resté seul. Et quand j'ai traversé le Sahara et que je suis arrivé au Niger, à Agadez, je dessinais dans la rue, comme ça, par plaisir. Et puis, il y avait toujours des attroupements de gamins qui arrivaient autour de moi, qui riaient, qui tchatchaient, tout ça. Et puis, leur joie de vivre m'a tellement bouleversé, tellement marqué, qu'au fond, ça m'a guéri de toute forme de neurasthénie. Et j'ai vraiment décidé de rester vivant le plus longtemps possible, vraiment grâce à eux, grâce à leur trop plein de vie, pour parler comme Nietzsche.
Et donc, justement, peut-être c'est ce début de votre renaissance qui se trouve à la fin du Manifeste incertain.
Oui, je n'ai pas fait exprès, mais vous savez, en fait, ce livre, puisque c'est encore une fois un livre, j'ai laissé beaucoup de place à l'improvisation dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de plan, j'ai eu des envies de faire des choses, de voyager, de lire certains auteurs, etc. Mais il y en a beaucoup que j'ai lus et sur lesquels je n'ai pas écrit ni dessiné d'ailleurs. Par exemple, Gombrowicz, j'étais parti pour et j'ai traversé l'Atlantique sur les traces de Gombrowicz. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que au dernier moment, j'ai vidé la valise de tous les livres de Gombrowicz et j'ai mis les livres de Gobineau. Donc, c'était un pur hasard parce que j'avais des livres de Gobineau qui traînaient dans ma bibliothèque et j'avais jamais lu parce que j'étais, comme tout le monde, victime des préjugés contre Gobineau, pensant que c'était un infâme raciste. Et donc, j'ai mis ça dans ma valise et c'est comme ça que j'ai lu Gobineau à la place de Gombrowicz. Donc, il y a toujours une part de hasard, et c'est pour ça que je dis souvent que les auteurs se sont imposés à moi. Je les ai pas vraiment cherchés, tout à coup, c'est une évidence. Ça peut être, je me rappelle quand j'ai fait mon tout premier livre avant l'immense solitude, qui s'appelait Martin Luther, l'aventure de la solitude, qui était une biographie assez dure sur la vie de Martin Luther. Et au fond, je marchais sur un quai de Seine, et c'est sur l'étal d'un bouquiniste que j'ai vu un livre écrit par un russe, Martin Luther. Et j'ai acheté ce livre, et c'était une petite biographie. Et j'étais tellement fasciné par cette biographie que finalement, pendant 4-5 ans, j'ai lu je sais pas combien de pages de Luther, et sur le protestantisme, et finalement Calvin, etc. Et je me suis intéressé à ce monde que j'ignorais totalement.
Et ces dessins donc d'Algérie ou de l'autre voyage qui est dans ce volume à New York, est-ce que vous dessinez de mémoire ou ce sont des dessins que vous avez fait les Touaregs par exemple, ces portraits, la Renault 16, est-ce que vous les dessinez de mémoire ou ce sont des dessins qui existaient déjà à l'époque que vous avez fait peu de temps après?
Non, c'est des dessins. Alors le désert, j'ai des photographies. Et souvent, je prends une dizaine de photographies et je m'inspire de... Je copie pas une photographie, j'essaye de chercher un peu quelque chose dedans, un mouvement. Et puis, dans une autre photo, je vais chercher peut-être un rocher. Donc, c'est une sorte de mélange. Alors bon, la Renault 16 que je dessine, parce que je la dessine neuve presque, et puis accidentée. Donc ça, c'est dans l'accident, je l'ai dessiné, enfin je l'ai inventé, mais la Renault 16, je l'ai prise dans une revue d'automobile, parce que c'est quelque chose de très précis et très réel. Autant le texte ressemble souvent à une enquête, et le dessin, c'est quand même une recherche de documents. Je pars avec beaucoup de documents sur le désert. Je voulais pas montrer un désert avec les dunes, un désert désertique. Je voulais montrer un désert de rochers géologiques, comme ça, quelque chose d'un peu inquiétant.
Oui, il y a des visages qui sont aussi inquiétants, parce qu'ils sont toujours à contre-jour. On voit jamais, ou très peu, les traits de ces Touaregs. Ce sont souvent des formes, justement, dont on devine le turban, mais qu'on a du mal à appréhender réellement.
C'est comme ça qu'ils nous apparaissent, d'ailleurs, dans le désert. Il y a une sorte de mystère, quand on rencontre des Touaregs. Moi, j'ai voyagé avec eux un peu. C'est des gens assez mystérieux.
Et parlons un peu de la fin, alors, de ce livre, ce Manifeste incertain, extrêmement surprenante. Moi, j'ai été, je l'avoue, tout à fait dérouté, et c'est très bien d'ailleurs comme ça, par cette surprise que sont, si je parle juste des dessins, ces visages christiques, cette présence tout d'un coup du Christ à la fin du Manifeste.
En fait, si vous voulez, je me souviens que je me suis assis sur un banc à côté d'un homme barbu, qui était probablement un clochard, mais quand même assez distingué, qui avait une certaine distinction. et qui était là avec des sacs remplis de je sais pas quoi, qui avait une longue barbe comme ça et qui ressemblait à une sorte de Christ fatigué. Et j'ai pensé tout de suite au Juif errant, qui est une figure qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Cette espèce de pénitence infinie m'a vraiment touché, m'a hanté, je dirais. Et j'avais l'impression que le Christ était une forme de Juif errant. J'ai toujours ce sentiment qu'il est puni par son père. En fait, à un certain moment de ma vie, j'ai voulu faire un livre sur Jésus-Christ. Et je voulais faire un livre sur Jésus-Christ et ses parents et sa famille, son rapport avec sa famille, quoi. Et j'ai beaucoup écrit là-dessus. Bon, j'en ai rien fait, mais ça, au fond, c'est un peu ressurgi dans le manifeste. Et c'est vraiment j'ai toujours eu le sentiment que Dieu était un punisseur et que la première personne qu'il devait punir, c'est son fils. Et quoi de pire comme punition que d'être condamné à errer éternellement sur la terre.
Merci beaucoup Frédéric Pajac, voilà une magnifique conclusion. Il faut absolument lire l'intégralité de ce manifeste incertain. Merci et à bientôt j'espère.
Merci à vous.
Albert Cosseri est un des écrivains les plus surprenants de la littérature francophone. Avec lui, c'est tout le peuple d'Égypte, et en particulier du Caire, qui fait irruption à Saint-Germain-des-Prés, et plus exactement à l'hôtel La Louisiane, 6 rue de Sèvres, où il vécut jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 93 ans. Les deux nouvelles de Cosseri que les éditions Folio ont le bon goût de faire reparaître pour la modique somme de 2 euros sous le titre de la seconde, « Les affamés ne rêvent que de pain », nous entraînent toutes deux dans les bas-fonds du Caire. Car s'ils vivaient en vrai dandy parisien depuis 1945, ces personnages n'ont jamais quitté les rives du Nil. En ce temps-là, il habitait avec ses parents dans le sous-sol d'une maison du quartier de Saïda Zainab. Une bien triste maison, à moitié démolie et d'où les femmes, mégères périlleuses, dirigeaient le peuple des enfants livrés à leurs instincts au fond de la ruelle. L'âcreté d'une telle vie le poussait à des vengeances puériles. Par la lucarne qui s'ouvrait à même la ruelle, il pissait sur les pieds des passants indolents et traînards. Son père était peintre en bâtiment. Chaque soir, en revenant du chantier, il rapportait avec lui des bidons où l'on dilue les couleurs. Saïd Karam raclait les fonds pour son usage personnel. Il se faisait ainsi une réserve de couleurs diverses dont il se servait à des fins nuisibles. Par exemple, il allait la nuit avec ses camarades badigeonner de manière plaisante les boutiques des environs. Cela créait de véritables suicides parmi les commerçants indignés qui n'en finissaient pas de voir leur respectable boutique imiter l'étrange éclosion d'une fleur paradisiaque en changeant journellement de couleur. Encore des enfantillages où l'initiative personnelle ne se faisait pas sentir. Saïd Karam rêvait d'une action d'éclat où sa personnalité intime se révélerait tout à coup. C'était par une nuit chaude et claire, identique à celle-ci. Une nuit extraordinairement limpide et qu'on ne pouvait pas palper avec ses mains. On entrait seulement en elle. On se baignait en elle et elle vous éblouissait de clarté. Partout, dans le ciel, les étoiles scintillaient pareilles à des fleurs blanches et immobiles. Et la lune, pleine et pure, semblait la reine dénudée d'un royaume charnel. Saïd Karam avait tressailli au contact de cette lune qui lui rappelait la rondeur d'une croupe féminine. oui, l'apparence de cette lune, impudique comme un morceau de chair nue, exaspérait en lui une longue attente amoureuse. Il faut dire qu'à cette époque, le vieux Ramadan, propriétaire du four à pain de la rue des Nobles, avait pour femme une jeune beauté au corps substantiel et à la peau lisse qui s'appelait Hamra. Et Seyed Karam rêvait depuis quelque temps de posséder cette créature charmante, aux formes déjà précisées par son désir, mais tellement intouchable. Car le vieux Ramadan montrait à l'égard de sa femme une jalousie effrénée, sans discernement. Une jalousie close à toute velléité de douceur, uniquement brutale. Aussi, tous les moyens d'approcher Hamra s'avéraient irréalisables et Seyed Karam, prostré dans son attitude de misérable, maudissait le destin qui le gratifiait d'un désir aussi difficile à satisfaire.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Bienvenue Rachid Benzine. Appréciez-vous les œuvres d'Albert Cossery? Ces personnages ont souvent une vision très utilitariste de la religion, assez peu de mystique parmi ces kérotes.
Absolument, en tout cas c'est très intéressant de découvrir effectivement ces personnages et leur rapport très utilitaire au religieux et au transcendant.
Rachid Benzine, on vous connaît bien comme essayiste, islamologue, spécialiste des réformateurs de l'islam. Vous êtes une sorte de Mu'tazilite du 21e siècle, érudit et généreux. Vous êtes l'auteur de nombreux essais, dont La construction humaine de l'islam, un recueil d'entretiens avec le regretté penseur algérien Mohamed Harkoun, ou avec la rabbin Delphine Horwiller, Des mille et une façons d'être juif ou musulman, paru en 2017. Aujourd'hui, vous nous revenez avec un roman brûlant sur le monde arabe, entre humiliation et révolte, entre sexualité et politique, intitulé « Dans les yeux du ciel ». Et ma première question, Rachid Benzine, concerne justement le roman. Qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se lancer dans la fiction? Pourquoi l'essayiste Rachid Benzine s'est-il fait romancier?
Tout d'abord parce que la fiction permet de bouleverser l'imaginaire et que la fiction a à voir, pour moi, avec le corps, c'est-à-dire que le corps est impliqué et on peut s'identifier. Et que, au-delà de l'aspect universitaire que j'avais, que l'analyse, le concept, j'avais besoin d'une rhétorique du sensible au service du sens, c'est-à-dire une littérature qui puisse dire le monde, qui donne à ressentir le monde et qui puisse surtout venir bouleverser l'imaginaire des lecteurs. Et je pense que là, la littérature, de par le langage, de ce pas de côté, de cette identification que l'on peut avoir avec le narrateur ou les héros, elle permet à l'être humain de vivre des expériences qui ne lui sont pas données et ce qui lui permet de se rapprocher de cette humanité qui, je dirais, qui peut nous bouleverser.
Une littérature pour partager alors des expériences sensibles.
Absolument, je pense que la littérature doit donner aussi à penser, elle permet aussi de partager des vécus, puis elle permet aussi de saisir l'autre dans son altérité et se découvrir, comme dirait Paul Ricoeur dans un texte, se découvrir soi-même comme un autre.
C'est un format moyen de 176 pages, dont le papier, légèrement ivoire, transparente un peu. Les chapitres sont numérotés de 1 à 25 en chiffres que nous appelons arabes. Après le faux titre et le copyright, en belles pages, on trouve une citation du poète Mahmoud Darwish tirée du recueil « État de siège ». « Je crierai dans ma solitude, non pour réveiller ceux qui dorment, mais pour que mon cri me réveille de mon imaginaire captive. » Les plats sont recouverts d'une jaquette en papier couché très brillant, où entre le nom de l'auteur, Rachid Benzine, le titre « Dans les yeux du ciel » et le nom de l'éditeur, « Seuil », se trouve une illustration. On la prend au verso, signée Lamia Ziadeh, exécutée au pinceau, à la gouache sans doute, représentant un visage ou plutôt un buste de femme. La figure bleu pâle, les yeux clos, les lèvres très rouges et la bouche grande ouverte Cette jeune femme semble pousser un cri silencieux, un cri de révolte qui donne une certaine dureté à ses traits. Rachid Benzine, est-ce ainsi que vous imaginez votre narratrice, Nour, la prostituée ?
Absolument, en tout cas c'est une femme libre, c'est une femme courageuse et qui prend, je dirais, la parole au moment des soulèvements arabes, au moment de cette révolution. Et d'un seul coup, son corps devient le réceptacle, je dirais, de tout ce soulèvement. Et à travers ce corps, à travers la sexualité, à travers ce qui va être dit, vont se dire à la fois toutes les frustrations, je dirais, des hommes qui habitent ces pays, mais en même temps les espoirs déchus et en même temps toutes les mensonges et les hypocrisies, puisque justement, à travers sa chambre, elle reçoit tous les acteurs sociaux, finalement, du pays, et sa chambre devient une espèce de miniature du pays où on voit, comme dans une fable, le gouverneur, l'islamiste, le journaliste, et chacun dit quelque chose de la vérité du pays.
Une fable terrifiante quand même, puisque Nour est prostituée, son corps est vendu, maltraité, elle-même est fille d'une prostituée, elle a été violée dans son plus jeune âge, enfin c'est quand même une histoire assez terrifiante.
Oui, c'est une histoire assez terrifiante dès le départ, mais c'est une femme libre, et elle le dit à un moment, c'est-à-dire que même malgré son enfance, elle décide à un moment de continuer la prostitution, parce qu'elle a un objectif qui est très clair, qui est la survie de sa fille qui s'appelle Selma, dont elle souhaite payer les études pour qu'elle puisse finalement s'émanciper. Et elle le dit et elle l'assume. Elle le dit à un moment, je suis pute, une fille de pute, depuis deux générations, en tout cas, il n'y a pas de quoi se vanter d'un savoir ancestral. Mais il y a une envie sur cette femme de ne pas faire de ses souffrances une identité. Elle est même libre vis-à-vis de Dieu, puisque finalement, elle l'interpelle. Elle lui dit, je ne suis pas une courtisane, je ne fais pas partie de ta cour si tant est qu'elle existe. Et elle le prie, je dirais, entre deux passes, elle fait ses ablutions pour se tourner vers Dieu et elle l'interpelle de manière assez libre. Et je crois que dans ces espaces de liberté se dit quelque chose d'assez fort sur cette femme qui est pour moi une femme courage, qui est une femme héros. Et donc ce livre, c'est quelque part un hommage au féminin.
Ce roman se déroule dans un pays qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'est pas nommé. On ne sait pas si c'est que vous ne le nommez pas, mais vous savez très précisément où cela se passe, ou alors si c'est un pays qui représente l'ensemble du monde arabe.
J'ai voulu, en tout cas, que le pays ne soit pas nommé, mais qui représente le monde arabe, c'est-à-dire un monde où les libertés individuelles sont étouffées, un monde où il y a, je dirais, de la dictature, un monde où les êtres humains sont empêchés, un monde où nous avons des gouvernements qui luttent contre leur peuple, un monde qui a été traversé, notamment par la colonisation et par la post-colonisation, en tout cas ces indépendances, qui n'ont pas complètement libéré ces peuples-là.
Vous pensez que c'est un peu la même chose partout, du Maroc jusqu'au Golfe? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi un endroit précis?
Je n'ai pas voulu choisir parce que je veux que l'imaginaire du lecteur travaille. Il y a effectivement des éléments que l'on peut répertorier de la Tunisie, il y a des éléments, je dirais, d'Égypte, il y a un peu quelques éléments du Maroc, mais cela se passe dans l'espace maghrébin.
Donc plutôt au Maghreb qu'au Mashrek.
Absolument.
Donc on reviendra tout à l'heure sur la révolution en cours, en tout cas dans le roman. Donc vous avez choisi de raconter cette histoire à la première personne. Nour, c'est vous, hein, en tout cas vous dites « je ». Qu'est-ce que c'est que de se transformer, ou en tout cas de prendre la parole au nom d'une femme ?
C'est une expérience qu'il nous faut vivre, nous en tant qu'hommes, parce que je pense que la question de l'altérité, la question du féminin, se pose de manière parfois assez évidente pour certains, mais parfois assez cruelle. Donc cela nécessite pour nous, en tant qu'hommes, de faire ce déplacement, de faire cet écart. Et je pense que la manière dont on traite les femmes dans une société dit quelque chose de profondément juste sur cette société, la manière même de considérer les autres, et notamment les autres minorités, puisque effectivement Nour, elle est vulnérable à deux endroits, de par sa fille qui est adolescente, qui doit continuer ses études, mais aussi de son amie dont elle est amoureuse, qui s'appelle Slimane, qui est homosexuelle. Donc on a deux personnes qui sont à la marge. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la marge va venir interroger le centre. La marge dit toujours quelque chose d'une société. La marge dit quelque chose qu'on refuse de voir. Or, voilà deux marginaux qui vont interroger le corps d'une société, qui vont interroger le politique, qui vont interroger, je dirais, l'hypocrisie. Et la question de l'altérité, elle m'intéresse toujours, puisque moi-même, dans le travail universitaire que j'ai essayé de faire, de par mon parcours, j'ai toujours essayé de discuter avec l'altérité, que ce soit le christianisme avec le père Christian Delorme, que ce soit le judaïsme à travers Delphine Horviller et autres, mais que la question d'essayer de comprendre ce qui n'est pas soi, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'autre, quels sont ses aspects m'intéresse toujours.
Et est-ce que vous pensez que justement la littérature, en tout cas écrire à la première personne à la place d'une femme, est possible, que vous pouvez justement non seulement vous féminiser en quelque sorte, mais est-ce que c'est légitime ?
On peut essayer. Ensuite, c'est aux autres de nous dire si l'exercice est réussi ou pas. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas chercher tellement la légitimité, parce que vous n'allez pas parler, je dirais, pour toutes les femmes, même si effectivement je parle d'une femme qui s'appelle Nour, dans un monde arabe, qui est prostituée, donc c'est quelque chose de vraiment de bien spécifique, mais elle le dit bien que son corps représente finalement le réceptacle de 30 ans de frustration des hommes, et son corps, c'est pas simplement le corps d'une prostituée, c'est aussi le corps des femmes qui est à chaque fois assignée dans des sociétés, et à chaque fois les femmes sont réduites à leur corps. Et ça, c'est pas quelque chose qui serait propre, je dirais, au monde arabe. Nous le retrouvons aujourd'hui dans cette manière dont le regard masculin assigne des fonctions au corps féminin.
Est-ce que vous croyez à l'universel, alors, ou à l'universalité, en tout cas une possibilité de l'universel pour la littérature ?
J'y crois beaucoup, parce que je crois qu'il y a un processus d'universalisation. Pendant très longtemps, l'Europe, l'Occident apportaient l'universel, mais les autres cultures sont aussi porteuses, je dirais, de processus d'universalisation, et que chaque culture, à partir de ce qu'elle est, a la capacité de dire, vous croyez, à mon avis, la question de la mort, la question de la souffrance, la question de la vie, la question de la joie, c'est ce qui fait finalement l'être humain, qui fait que c'est un être manquant, c'est un être vulnérable, c'est un être fragile, ça peut être aussi un être orgueilleux, ça peut être un être qui fait le mal. Et je crois que tous ces éléments-là se retrouvent partout. Mais aujourd'hui, pendant très longtemps, ça a été le choc des civilisations. On a l'impression qu'il n'y a plus cette capacité de faire du commun. Or, je crois que l'une des fonctions de la littérature, c'est de créer finalement ce commun. En tout cas, de nous rendre ce commun à la fois étrange, mais en même temps proche. Et c'est, je dirais finalement, le langage de la traduction. La traduction, c'est cela. C'est-à-dire que à la fois, l'autre me sera toujours inaccessible dans quelque chose qui lui est irréductible, mais en même temps, la traduction me permet de me rapprocher de lui, et ce qui fait qu'à un moment, il devient mon semblable.
Et comment avez-vous travaillé alors ? Est-ce que vous êtes documenté ? Parce que même si ça se passe dans un pays qui n'existe pas, ces personnages nous paraissent à nous bien réels, que ce soit Slimane, Nour, la prostituée, ou le gouverneur de la province, ou beaucoup de ces acteurs du politique ou de la société civile. Vous êtes documenté, vous avez fait des entretiens, comment est-ce que vous avez procédé ?
Absolument, je dirais dans les trois romans que j'ai pu faire, que ce soit Lettre à Nour ou Ainsi parlait ma mère ou Dans les yeux du ciel, je pars d'abord en tant que chercheur. C'est-à-dire j'essaye de ramasser beaucoup d'éléments, que ce soit des éléments de terrain avec des entretiens directs ou de la littérature spécialisée qui est écrite sur la prostitution ou de la géopolitique, la science politique, la sociologie. Donc je pars d'abord d'un matériau pour tenter de comprendre, en tout cas de multiplier les analyses, qu'elle soit sociologique, politique et même psychanalytique. Et ensuite, je laisse reposer tout cela et j'essaye de voir qu'est-ce qui émerge à un moment en termes de récit, en termes d'histoire. Parce qu'il ne s'agit pas, me semble-t-il, dans l'espace de la littérature, de retrouver l'essai. Je pense qu'il y a une distinction qui doit être très très nette, mais la littérature, elle est là d'abord pour, à travers les mots, raconter une histoire, c'est-à-dire raconter une expérience où le lecteur ne sait pas où est-ce qu'on va le mener. Mais le but, c'est que, à la fin, le lecteur soit reconfiguré par la réalité qu'il vient de vivre. La lecture est une expérience. Donc c'est une expérience qui fait bouger votre identité, l'identité narrative selon Paul Ricoeur. Vous n'êtes pas le même au début d'un livre et à la fin d'un autre livre, parce que vous rentrez par la sensation, vous rentrez par l'émotion, vous rentrez par les tripes, alors que l'analyse que j'enseigne ou que je mets dans des essais, là on a affaire simplement à du rationnel, on essaie d'argumenter. Ici, il ne s'agit pas d'argumenter, il s'agit de raconter une histoire avec toutes les sensibilités possibles.
Mais vous, l'auteur, cette voix de Nour, comment est-ce qu'elle vous est apparue ?
Elle m'a paru évidente, c'est-à-dire qu'elle est, dès les printemps arabes, je me suis dit, qu'est-ce que dirait une femme sur ces révolutions-là, une femme qui serait à la marge. Et donc, je dirais, l'idée de la prostitution m'est venue très rapidement, parce que ce qui m'intéressait, c'est comment Nour, en se mettant à nu, va mettre à nu toute une société dans sa vérité éclatante, dans cette vérité que l'on refuse de voir.
Est-ce que Nour, c'est une forme d'allégorie, une personnification du monde arabe ?
Absolument. En tout cas, pour moi, Nour est la métaphore du corps du monde arabe, c'est-à-dire un corps qui a été maltraité pendant la colonisation et qui continue à être encore plus maltraité aujourd'hui. Et notamment, celles qui sont le plus maltraitées, ce sont les femmes dans ces sociétés.
Et elle, Nour, elle s'adresse à qui quand elle écrit ?
En fait, Nour, elle se parle à elle-même. Elle raconte ce qu'elle voit de cette chambre dans laquelle elle reçoit tous les clients. Elle peut recevoir un homosexuel qui a envie de devenir hétérosexuel, qui pense que c'est possible. Et comme il n'y arrive pas, il devient islamiste. Elle reçoit aussi des militaires. Elle reçoit des islamistes. Et elle dit, les militaires et les islamistes, c'est la même chose. Mon lit peut en témoigner. Et donc, elle nous raconte à nous, en s'adressant à nous en tant que lecteur et en se parlant à elle-même, mais aussi elle s'adresse à Dieu, parce que Dans les yeux du ciel, c'est à la fois un titre poétique, la citation en ouverture de Mahmoud Darwish sur l'imaginaire captif, ça dit quelque chose de la révolution, c'est-à-dire comment la révolution vient d'un seul coup bouleverser l'imagination et l'imaginaire d'un certain nombre de gens qui font qu'on passe d'être révolté à révolutionnaire, et on a cette femme qui est une révoltée, mais qui n'est pas une révolutionnaire. Elle le dit à un moment dans le texte, elle dit « Je ne suis qu'une pute, je ne suis pas une insurgée. » Parce que elle, sa condition de vie, sa survie, c'est la chose la plus importante. Et elle le dit, la révolution, c'est pas bon pour les affaires. Et elle a besoin de trouver, comme elle le dit, des capotes, du pain et de quoi faire manger sa fille. Contrairement à son ami Slimane, qui est un poète de la révolution.
Il y a un autre poète aussi qui est présent, en tout cas qui donne son nom à une rue, hein, qui est Al-Artal, poète chrétien. Donc c'est le seul nom de propre qu'on a dans ce texte qui permet. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il y a une rue Chaler Al-Artal, je ne sais pas si elle existe quelque part. Mais en tout cas, ce serait assez beau que ce poète anti-islamique oublié ait de nouveau une rue dans un des pays arabes.
Ce serait beau, oui.
Rachid Benzied, avec Dans les yeux du ciel, vous rentrez de plein pied dans ce triangle interdit de la littérature arabe, qu'elle soit francophone ou en arabe, qui est le triangle marqué par sexe, politique et religion. C'est réellement là aller droit vers l'interdit.
Absolument, mais en tout cas, il s'agit de déplacer les frontières de cet interdit, et en déplaçant les frontières de cet interdit, de se dire qu'est-ce que ça vient nous dire sur le lien entre le pouvoir et la sexualité. Beaucoup de travaux le disent, en tout cas dans les sciences humaines, que ce soit même Histoire de la sexualité chez Michel Foucault, on retrouve finalement des éléments là. Mais là, on touche à des tabous. Or, ce qui m'intéresse, c'est comment on va déplacer ces tabous, parce que en n'osant parler de ces tabous et en essayant de montrer toutes les représentations et les mensonges qu'il y a derrière ces tabous, ça permet à une société de se regarder telle qu'elle est et avoir ce courage de la vérité. Parce qu'en fait, Nour, elle ment à ses voisins, elle ment à sa fille. Le seul moment de vérité possible, c'est avec son ami poète qui, lui, ne ment pas. Comme si finalement le poète disait quelque chose de vrai sur la réalité.
Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent et évoluent de ce point de vue-là dans le monde arabe ?
Absolument. Je pense qu'il ne serait-ce que d'un point de vue démographique. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui plus de 50% de la population dans cet espace maghrébin qui a moins de 25 ans. Donc du coup, cette jeunesse-là, qui a connu finalement aussi ces révolutions-là, en tout cas qui les a connues à travers la génération précédente, fait qu'il y a un avant et un après. Pendant très très longtemps, on a dit que ces pays étaient bloqués par les dictateurs. On a dit que ces pays étaient bloqués par, je dirais, l'islam politique, et on était encore dans cette séquence, je dirais, du World Trade Center de 2001, etc. Et d'un seul coup, devant nous, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, on voit une foule qui commence à sortir un peuple qui dit quelque chose qui était impensable aux dictateurs de dire de dégager. Et donc, il y a un soulèvement qui s'est produit. Il y a un imaginaire qui s'est ouvert. Et même si, finalement, On peut se dire que 10 ans après, certaines aspirations justement de cette révolution ont échoué ou encore ont été quelque part trompées. Il n'empêche que il y a dans ces révolutions-là des étincelles qui sont reprises encore aujourd'hui par d'autres en Algérie et ailleurs.
Rachid Benzine, Dans les yeux du ciel est aussi un roman politique, hein, comme vous venez de le dire. C'est une description d'événements qui ressemblent beaucoup à ceux du printemps arabe, en tout cas du début des années 2000-2010. Est-ce que vous pensez que la littérature peut quelque chose là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'un roman comme le vôtre peut avoir un poids politique aussi de l'autre côté de la Méditerranée?
Je pense qu'un roman, à partir du moment où il permet l'ouverture, en tout cas il permet la discussion, il fait avancer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, les plus belles recensions que j'ai eues, c'est en Algérie et au Maroc, de ce texte-là, qui comprennent bien l'enjeu de pouvoir dire les choses, de pouvoir nommer, d'avoir cette liberté de oser dire les choses, mais à travers le roman. C'est-à-dire que c'est comme si le roman, en fait, vous protégeait. C'est-à-dire, j'aurais dit la même chose d'un point de vue analytique, à mon avis, il y aurait eu beaucoup plus de problèmes. Mais comme si la fiction, on partait du principe que c'était pas vrai. Or, il n'y a pas plus vrai que la fiction, parce qu'elle permet de faire germer des idées sur beaucoup de choses. Et moi, je suis invité aujourd'hui en Algérie et au Maroc pour pouvoir, je dirais, en discuter, pour pouvoir discuter de la place du corps de ces femmes, pour la question du politique, la question des libertés fondamentales qui sont bafouées, parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup d'États qui ont mis en place tout un dispositif répressif sur le journalisme, sur le net, etc. Et que les espaces, finalement, de discussion, les espaces de liberté sont en train de s'amenuiser. Et là, à mon avis, il y a quelque chose véritablement à faire. Et la littérature, comme le théâtre, comme la fiction, ont des choses à nous dire.
Est-ce que vous pensez que la littérature, en tout cas les romans, est un peu une des seules réussites du printemps arabe?
Je dirais que, effectivement, il y a la littérature, mais il y a eu tout un mouvement autour de l'art, que ça soit graphique, le cinéma, le théâtre, qui sont autant d'archives qui nous disent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un événement qui est devenu un événement dont on a gardé des traces, et que les autres, un jour, quand ils voudront à nouveau se soulever pour reprendre le flambeau, ça sera possible. Mais je pense que les soulèvements ou les subversions commencent toujours par l'aspect artistique. C'est comme si finalement l'art avait préparer cet ébranlement du monde, préparer cet ébranlement, je dirais, de l'individu dans sa propre existence. Il réactive des possibles. Il nous donne à voir le monde autrement. Et je pense que la littérature, c'est aussi cette capacité à un moment de suspendre les références du quotidien, de nous faire introduire dans un monde et que dans ce monde-là, il y ait des reconfigurations de notre possibilité d'existence. C'est-à-dire que le texte s'adresse à l'agir. On a envie d'agir quand on a été frappé en plein cœur par un texte, par une pièce de théâtre, par un film.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une question ou un problème au fait que ce texte, cette subversion, comme vous dites, vienne de France et en français?
Peut-être qu'il y a peut-être une limite à ce texte-là, mais il existe aussi... J'en ai lu des textes en arabe, des subversions encore beaucoup plus grandes que Dans les yeux du ciel. Je crois que ce qui est très important, c'est que ça fasse écho. Moi, je suis, je dirais, d'origine marocaine. Il y a en ce moment des idées de traduction de ce texte-là dans le monde arabe. Hiyam Abbas, la comédienne palestinienne, l'a joué à Carthage. Il y a plein d'espaces de liberté qui existent dans le monde arabes et musulmans. Et moi, je veux faire confiance à ces espaces-là.
Et est-ce que vous êtes plein d'espoir vis-à-vis de l'avenir du monde arabe?
Mais complètement. Complètement, je suis plein d'espoir parce que je vois cette jeunesse-là qui descend dans la rue, qui protège. Je vois des jeunes qui s'impliquent. Je vois des jeunes qui sont en train de réinventer des choses d'un point de vue local et qui sont en train d'expérimenter des espaces démocratiques et des espaces d'action. Et cela, il faut être capable de le voir. Il ne faut pas simplement entendre les grands bruits, des grandes manifestations de ce qui va pas. Mais il y a toute une révolution douce qui est en train de s'emparer de tous ces pays-là.
Merci beaucoup Rachid Benzine. En tout cas, c'est un très beau livre qu'il faut absolument lire. Dans les yeux du ciel est paru aux éditions du Seuil. Merci.
Merci beaucoup.
on se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, c'est Ilana Holguin Teodorescu qui nous parle d'Aller avec la chance, récit paru aux éditions Verticales, et de ses voyages haletants en Amérique du Sud.
Salut bateau! Je te contacte depuis un autre univers, celui de la Terre, et non des mers. Celui de tes compères sur roues, les camions, motos, taxis, voitures, bus. Je te laisse ce message parce que tout au long de ma traversée de 10 000 km entre les Caraïbes et la Patagonie, je ne t'ai pas lâché des yeux. Alors j'ai pensé que si je te voyais, tu me voyais sûrement aussi. Peut-être voudrais-tu savoir comment c'était là-bas, sur la route. Voici ce que je peux t'en dire. Les habitants qui la peuplent sont souvent des hommes, camionneurs ou ouvriers. Mais pas que. Il arrive aussi que d'autres sortes d'individus y fassent leur apparition. Des jeunes autostoppeuses, par exemple, qui tendent leur pouce pour qui voudra bien les aider en les prenant à bord. Elles peuvent arriver là par amour, poussées par la curiosité, par l'envie de découvrir un monde différent du leur et dans lequel elles pourraient trouver la vie sans nulle contrainte, sans autre fil directeur que celui des rencontres. Je dis « elles », mais en fait, bateau, je te parle de moi. J'ai essayé de faire comme toi dans l'eau, tu sais, de me laisser porter par le courant, même parfois de permettre à quelques gouttes d'eau de s'immiscer dans les fissures de ma pensée, en faisant attention, tu t'en doutes, à ne jamais couler. Bon, allez, je te laisse. Bon vent, bateau.
C'était la salle des machines, une émission de Mathias Sénard assistée de Céline Leclerc. Agnès Catou l'a réalisée avec l'aide de Bruno Mourlan à la prise de son aujourd'hui. Puisque dimanche prochain est encore loin, profitez des épisodes antérieurs de la salle des machines sur franceculture.fr.